Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler leadership féminin. On va bien positionner les choses entre leadership féminin et masculin. Et bien plus encore avec ma femme d'aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Dalila Houari, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Choubarak lala Dalila.
Alhamdoulilah, Allah yibarak fik, merci beaucoup.
Merci infiniment d'être là. Yasmine. Alors, vous avez plusieurs casquettes lala Dalila. Vous êtes experte en RH, vous êtes auditrice sociale, vous êtes dans le conseil et vous êtes dans l'accompagnement et le développement personnel. Qu'est-ce qui est venu en premier? C'est les RH, j'imagine.
Oui, effectivement. Donc, le début de la carrière a commencé dans les ressources humaines. C'était il y a une trentaine d'années quand même, à Tanger, où le paysage ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui en termes d'opportunités d'emploi. Par la force des choses, ben, à l'époque, on cherchait du travail et puis on faisait avec ce qu'on trouvait. Par la force des choses, je me suis retrouvée dans le département des ressources humaines. Ce n'était pas vraiment un choix, mais c'est venu, c'est arrivé comme ça. J'ai pris, j'ai apprécié et c'est parti.
Okay.
Ça a commencé, l'aventure a commencé. Voilà.
Alors racontez-nous, Lala, Dalila, les RH, il y a 30 ans, c'était quoi exactement, quand vous avez commencé?
Les RH, il y a 30 ans, c'était de la gestion du personnel. C'était de la gestion administrative. C'était pratiquement la partie où le travail mécanique quotidien qui se fait dans le service du personnel pour gérer une unité de production, pour gérer une institution, une organisation, une entreprise. Mais ça s'arrêtait là. C'est précisément dans ce domaine-là des ressources humaines qui est la partie administrative que j'ai commencé.
Alors, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez assisté à l'évolution de votre profession.
Effectivement.
C'est ça. Donc, à partir de quand, on est en train de faire avec vous une rétrospective des RH.
Justement, ouais.
Voilà. À partir de quand, plus ou moins, de quelle année, vous avez constaté qu'on commençait à parler de capital humain, que l'humain était entré dans l'équation?
Alors, le capital humain, c'est tout récent. Par contre, avant d'intégrer ce nouveau concept dans le jargon RH, c'est plutôt les ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est dans les années 2000 que c'est devenu monnaie courante. Dans les années 90, c'était toujours dans la majorité des entreprises, et là je me réfère à la région de Tanger, la majorité des entreprises avait un service ou un département du personnel. Dans les années 90, ça a commencé à changer parce que le concept de formation et de développement a intégré la gestion des ressources humaines. Donc, on n'était plus uniquement sur de la gestion administrative. Et à partir du début des années 2000, la GRH a pris le dessus et c'est devenu le terme monnaie courante utilisé pour la fonction. Capital humain, je dirais, c'est dans les 5 dernières années. Capital humain, c'est pour donner, effectivement, l'humain en lui-même a des capacités, a des ressources, a des compétences qu'il met à la disposition de l'entreprise, mais en lui-même ne peut pas être considéré comme une ressource par l'entreprise. D'où cette notion de capital humain qui a développé encore plus l'approche de gestion de GRH, de gestion des ressources humaines. L'humain est le capital numéro un de l'entreprise.
Alors, vous avez dit, je suis arrivée par hasard, je cherchais un boulot, j'avais fini mes études. Ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, mais je suis rentrée dans les RH. J'ai apprécié. Et non seulement vous avez apprécié, mais vous avez aussi appris.
Énormément. Ah, énormément. La preuve, je suis rentrée, je n'en suis plus sortie.
C'est ça. Est-ce que c'est par pure habitude que vous y êtes restée ou c'est vraiment parce que ce domaine vous a impacté?
Il m'a impacté, il m'a attiré. Et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait énormément de choses à faire, à apprendre, si j'avais fait un choix, il n'aurait pas été meilleur.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes femmes aussi qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont principalement drivées par la passion avant d'intégrer un secteur professionnel, un domaine professionnel et qui ne veulent pas faire quelque chose qui ne leur plaît pas? Est-ce qu'il faut démarrer dans la vie sans avoir de préjugés?
Alors justement, les femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. À l'époque, on prenait ce qu'il y avait sans trop...
se poser de questions.
C'est vrai qu'il y avait... Voilà, il y avait des orientations, il y avait... Bon, ça existait quand même pour ne pas être trop négative. Mais ce n'était pas comparable avec ce qui existe aujourd'hui. Les femmes, les jeunes femmes peuvent se faire accompagner bien avant d'avoir terminé les études pour leurs orientations de carrière. Et même peuvent choisir les études et les qualifications qu'il leur faut pour pouvoir faire le métier qu'elles souhaitent. Donc aujourd'hui, ces accompagnements, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour se faire accompagner et pour avoir une idée plus claire sur les débouchés, sur ce qu'on veut faire dans le futur.
Oui.
À l'époque, ça n'existait pas.
Absolument.
C'était un petit peu le tâtonnement, c'était un petit peu la chance. On trouve qu'on a de la chance, on trouve pas, on attend. C'est très différent. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de chance. Que ce soit d'emploi, que ce soit de se faire orienter.
Mais est-ce que pour vous...
Les femmes d'aujourd'hui, si elles ne le font pas, c'est qu'elles ne le... Soit qu'elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas où s'adresser, soit qu'elles ne le veulent pas.
Mais ma question,
c'est pas ce qui manque.
Est-ce qu'il faut laisser... Walid Lergragi le dit beaucoup, Nia, et vous en avez parlé aussi de Nia.
Exactement, oui, parce que je suis in maintenant.
Oui, on est tous in.
Dedans. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes... doivent garder cette part-là, cette part de Nia, ou Jbakia Keina, dans la recherche de l'emploi, dans la recherche de son avenir, en fait. Parce que vous, c'est pas un emploi que vous avez cherché votre avenir il y a 30 ans.
Ben, je dirais que oui, il faut quand même pas écarter totalement Nia, parce que, bon, elle existe. Mais il ne faut pas se baser que sur ça, quand même, parce que. Il y a aujourd'hui des méthodes, des techniques, des opportunités pour se faire accompagner. Il serait regrettable et dommage de ne pas les intégrer et de ne pas les utiliser pour s'assurer qu'on fait le bon choix, en fait.
Absolument.
Ça ne veut pas dire que forcément on va être satisfait du choix, ça ne veut pas dire que forcément ça va nous donner ce qu'on veut, mais je recommande vivement quand même de ne pas se baser uniquement sur Nia. Nia Keina, il faut la garder, il faut la considérer, mais il faut également se documenter, se renseigner sur ce qu'on veut faire.
Et Nia, c'est justement ce beau cadeau que nous avons en tant que peuple aussi, cette notion de Nia, de l'intention. L'intention, Yakulchi. Alors, Lella Dalila, justement,
oui.
Entre-temps, vous avez aussi pleinement intégré l'évolution et le développement de votre profession, parce que vous êtes aussi formée en coaching et en accompagnement des autres. À quel moment vous avez senti que c'était nécessaire?
Écoute, Yasmine, il n'y a pas un moment où on n'a pas un besoin de se former, de se développer pour rester in et pour rester à la hauteur. Les choses, l'environnement change très vite, le contexte également. Et si on ne se développe pas en continu, au bout de très peu de temps, on est dépassé. De par la vitesse de ce qui se passe autour de nous, des nouveaux concepts qui naissent régulièrement autour de nous, qui sont importés d'Europe, qui sont même des États-Unis. Donc, le fait de se former et de rester connecté avec ce qui se passe autour de nous est obligatoire pour toute profession, je dirais, pas uniquement pour les ressources humaines. Donc, le fait de me former, pas uniquement en coaching, parce qu'il y avait... je dirais que je ne me suis jamais arrêtée hein, depuis que j'ai commencé dans les ressources humaines il y a une trentaine d'années. Les formations se sont enchaînées. C'était par besoin, parce qu'il fallait continuer à me former pour rester à la hauteur et pour pouvoir continuer, aller de l'avant. Et aussi par envie, par passion, parce que j'avais envie d'apprendre. J'avais envie de me développer, d'apprendre plus, de me positionner en tant que femme leader dans un environnement qui, l'environnement industriel notamment, qui est un environnement très, très majoritairement, je dirais, masculin.
C'est ça.
Donc il y avait aussi cette.
Donc vous avez voulu vous imposer par le savoir. Vous avez voulu
par
vous imposer
savoir,
par le savoir,
par la posture,
par la compétence.
Par la reconnaissance, par la compétence, par l'efficacité du travail qui est réalisé, par la gestion des équipes qui travaillaient directement avec moi. Donc tout ça, c'est un cumul. Et il y avait cet enjeu aussi qui était très important, parce qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque l'industrie s'est développée sur la région de Tanger et les différentes zones industrielles ont commencé à se remplir d'usines de différentes nationalités qui venaient s'installer. Donc, les démarrages se faisaient, donc on était contents, il y avait des opportunités d'emploi, ça bougeait, c'était excellent. Mais on s'est très vite rendu compte que les staffs dirigeants, les postes de responsabilité sont principalement occupés par des hommes. C'est culturel, ça vient d'ailleurs, c'est comme ça, mais les organisations à l'époque étaient beaucoup plus confiantes en sélectionnant un homme pour un poste de responsabilité, même s'il y a des compétences féminines qui peuvent le faire, mais le choix est porté sur l'homme. Donc à l'époque où il m'a
c'est toujours d'actualité.
L'opportunité... Pardon ?
C'est toujours d'actualité. Que les choix.
Ah non, heureusement.
Non. Ouais, oui.
Heureusement. Alors, à l'époque où l'opportunité m'a été donnée d'occuper un poste de responsabilité, ben, j'étais la seule femme dans une équipe d'hommes et ce n'était pas du tout évident. C'est un message que j'adresse à toutes les jeunes femmes leaders d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait de travailler dans des entreprises où il y a des staffs. On parle beaucoup de parité, on parle d'égalité, on parle de staff complémentaires où il y a des staffs composés d'hommes ou de femmes. C'est tout récent. Avant, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Et arriver à ce résultat aujourd'hui ou à cet état aujourd'hui, c'est la récolte d'années de travail.
D'autres
femmes. Il a fallu prouver que la femme est tout autant capable de prendre des postes de responsabilité, de gérer des problèmes, en parallèle avec parce que généralement pour la femme on lui attribue le rôle de maman, le rôle d'épouse, le rôle elle pourra pas, elle aura un enfant, comment elle va faire, elle a deux gosses, on a su prouver que non.
Oui. Et on continue à le prouver au quotidien.
C'est l'une des choses pour l'entreprise. Pour laquelle j'ai travaillé, pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, ainsi que pour l'entourage, je dirais que c'est une des choses desquelles je me sens vraiment fière.
Alors, justement, Dalila Houari, vous parlez de femme leader. Pour vous, c'est quoi une femme leader ?
Le leadership, pour moi, c'est cette capacité à gérer un poste de responsabilité, une mission. Tout en fédérant des équipes autour d'objectifs, en les maintenant motivées, en se faisant reconnaître et respecter en tant que leader, c'est-à-dire en se faisant, je dirais aujourd'hui, pour pour bon, c'est un petit peu une comparaison, une métaphore. Pour le digital, c'est les influenceurs. Aujourd'hui, c'est le concept qui est né il y a quelques années. Donc, le leader, il devrait quelque part être comme un influenceur, c'est-à-dire ce qu'il fait, ce qu'il dit, son comportement doit être un exemple pour les autres. Et arriver à ce stade, ben, un leader ou une leader devra faire preuve de tout un parcours de reconnaissance, de crédibilité, de se faire accepter aussi, de prouver. Mais une fois qu'on est reconnu en tant que leader, ah, c'est tout un plaisir, que ce soit pour l'équipe, que ce soit pour le leader ou la leader en elle-même.
Mais ce n'est pas gagné d'avance, bien sûr, j'imagine.
Ah non, pas du tout. Ce n'est pas donné à tout le monde aussi.
Bien sûr, ce n'est pas...
Il y a des personnes pour qui c'est relativement facile de prendre le lead, de faire du coaching, de rôle de locomotive. Et ça vient aussi de l'enfance, ça vient de l'éducation, ça varie d'une personne à une autre. Et comme il y a des cas pour d'autres personnes où c'est relativement difficile, pour ne pas dire très difficile. Pour des raisons aussi de caractère, pour des raisons d'éducation. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde non plus.
Absolument, absolument, comme vous dites. Mais il y a aussi le leader, la leader que vous êtes, est passée, j'imagine, aussi par des moments compliqués. C'est-à-dire que forcément, on n'arrive pas à fédérer tout le monde dès le départ. Surtout, vous l'avez dit, c'était un environnement masculin. Mais vous savez, les femmes aussi ne sont pas toujours les plus tendres entre elles, en fait.
Non, justement. ça me rappelle des. En fait,
les femmes
ne sont pas tendres entre elles. C'est le début quand il y a une recherche de positionnement. Mais une fois qu'on dépasse ce stade et qu'on reconnaît ses capacités et qu'on développe sa posture et ça y est, on remplit bien son siège. On n'est plus dans cette configuration. On ne ressent plus ce besoin au bout d'un certain temps. Et puis, à une certaine étape du parcours, on dépasse ce genre de comportement.
Et c'est les hommes qui entrent en jeu.
Les hommes entrent en jeu. Les hommes sont toujours, ne sont jamais sortis du jeu, en fait.
Jamais, oui.
Le fait de développer le leadership féminin et de militer pour ça ne veut pas dire qu'on veut éradiquer le leadership masculin. Ce n'est pas du tout le but. Le leadership masculin et féminin est complémentaire. Une équipe constituée d'hommes et de femmes, leaders, avec différentes casquettes et différents rôles de responsabilité, ne peut être qu'une équipe plus complète, plus complémentaire. Donc, on n'est pas dans cette équation d'éradication d'hommes de postes de responsabilité. Non, pas du tout. Il faut les maintenir. Mais il faut aussi qu'il y ait des postes de responsabilité occupés par des femmes. Ça crée de la motivation, ça crée de la complémentarité, ça crée également je vais illustrer par un petit exemple. Généralement, les staffs masculins, c'est des staffs qui sont, par la force des choses, qui deviennent très durs entre eux. Ils se parlent d'une certaine façon. Dans le domaine de l'industrie, notamment. Lorsqu'il y a des femmes parmi ces équipes, ils font un peu plus attention. Ils sont plus posés. Les échanges sont plus courtois. Le savoir-être, il est plus présent. Même la qualité du matériel qui est présenté, qui est préparé. Généralement, quand c'est une femme qui présente son matériel, est toujours bien soigné. Et si elle se fait féliciter que le lendemain, son collègue masculin, on lui fait la remarque parce que son travail est brouillon, donc il va faire des efforts la prochaine fois pour ne plus retomber. Donc c'est complémentaire, en fait. Le fait de créer cette équité, c'est très important de souligner que le leadership féminin ou la militer pour le leadership féminin ne veut absolument pas dire éradiquer ou la écarter ou la dépasser le leadership masculin. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut garder cette complémentarité.
Absolument. Ben, Lala Dalila Houari, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Aussi.
Merci beaucoup.
Ouais,
au revoir. Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler leadership féminin. On va bien positionner les choses entre leadership féminin et masculin, et bien plus encore avec ma femme d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.